Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, l'un des trois textes du jour, dans le chapitre 10, Jean chapitre 10, les versets 10 à 18. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix. Et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me la prend. Mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Dans ce texte, comme dans bien d'autres, dans les évangiles ou ailleurs, la comparaison entre la réalité humaine et un troupeau de moutons est rarement à notre avantage. Elle nous présente comme un rassemblement d'êtres identiques. Un mouton ressemble à un autre mouton, entassé par quelqu'un qui les conduit d'un point à un autre, incapable de décider par eux-mêmes d'une direction ou d'un itinéraire. Les moutons sont des animaux très utiles, mais incapables de décider quoi que ce soit par eux-mêmes. Dès qu'ils se déplacent, et ils se déplacent beaucoup, c'est sous la direction de quelqu'un qui connaît la route à suivre et ils suivent scrupuleusement, sans dévier, par pur instinct de troupeau. Cet instinct permet certainement de ne pas s'égarer loin des autres. Ça a un avantage. Mais il peut aussi mener l'ensemble à la catastrophe. Les moutons de Panurge vont au précipice en bon ordre, presque aussi bien rangé qu'une cohorte de la Légion romaine en ordre de bataille. Si la comparaison avec l'être humain est parfois pertinente, tout de même si ça n'est pas flatteur, c'est parce que nous sommes nous aussi des êtres brinque-ballés. Par ceux qui ont plus de pouvoir, d'initiative ou de liberté que la moyenne, par les irruptions de l'inattendu et du tragique que personne ne maîtrise, troupeau ou pas, par des technologies auxquelles nous déléguons le soin de savoir à notre place, etc., etc. Je lisais il y a peu que certaines villes commençaient à prendre des mesures pour contrer les désagréments provoqués par les différents GPS. Parce qu'à force de conseiller à un nombre croissant d'automobilistes, un certain nombre d'itinéraires, ces technologies ont parfois déplacé les embouteillages d'un endroit à un autre, ce qui est drôle, hein. Enfin, sauf quand on est coincé dans sa voiture, évidemment, mais à la plus grande surprise des utilisateurs qui pensaient pouvoir se fier à ce GPS, ils se sont retrouvés dans l'embouteillage qu'ils pensaient fuir. Vous voyez, c'est l'écran de votre tableau de bord en tant que bon berger, si vous voulez, et un bon berger qui vous a trompé. À travers cet exemple drôlatique, sauf pour ceux qui sont coincés, bien sûr, et auxquels je pense fortement, ils sont peut-être, au moment où je parle, dans les bouchons des retours de vacances, c'est toute notre condition humaine incertaine qui apparaît. Non seulement nous avons du mal à nous guider nous-mêmes, ça c'est vrai, guider notre propre vie, mais ceux à qui nous déléguons cette tâche exténuante sont parfois eux aussi défaillants. À qui se fier ? Sans compter que l'être humain est aussi son propre prédateur, c'est-à-dire son meilleur pire ennemi. sans oublier aussi qu'on nous élève aussi un peu pour nous tondre la laine sur le dos avant de nous manger d'une certaine manière. Si l'on demandait à une intelligence artificielle de calculer les chances de survie de l'espèce humaine, elle mettrait peut-être 2 ou 3 secondes ou 2 nanosecondes pour estimer nos chances à moins de 10% ou moins de 5%, je ne sais pas. Mais il est vrai que l'intelligence artificielle peut aussi raconter n'importe quoi, principalement parce que souvent elle compile des connaissances qui viennent de nous. C'est drôle. Encore une fois, à qui se fier ? Ce qui frappe dans la comparaison de l'homme avec le mouton, c'est la question de la liberté d'échapper au moins un peu, au moins de temps en temps, à un destin tout tracé. Une existence cadrée par des instincts et des forces supérieures d'un côté, la peur des dangers qui nous attendent en dehors du troupeau de l'autre côté. Notre propre vie paraît aussi peu flatteuse parfois que celle d'un mouton, du moins dans certaines parties de son déroulement, pas chaque jour et à chaque instant, heureusement. Quant à son issue, elle est fatale, comme chacun le sait. Alors, comment vivre de manière constructive en se hissant vers le haut, vers ce qui est le plus épanouissant possible, sans être freiné par cette comparaison un peu déprimante? Il se trouve, heureusement, qu'il y a tout de même de grandes différences entre l'espèce humaine et les moutons, entre notre vie et la leur, heureusement pour nous. L'une de ces différences est justement, et elle apparaît ici, la volonté de ne pas plier systématiquement devant un chemin tout tracé, la volonté de repousser une mort inévitable en faisant de la vie une trajectoire maîtrisée au moins par moment, orientée par des choix personnels assumés. Nous ne partageons pas cela avec les moutons. Malgré toutes les définitions compliquées qu'on peut trouver ici ou là, après tout, être libre, c'est tout simplement avoir le choix. Avoir la possibilité de sortir de l'enclos, trouver ses propres itinéraires au risque de se tromper, et plus d'une fois. C'est peut-être la seule manière d'être vraiment humain, ou si on se reporte à ce dialogue de Jésus qui évoque ce Dieu qui est le sien, la meilleure et la seule manière de se débarrasser d'un Dieu qui nous attend au tournant, d'un Dieu qui gère seulement la pesée des âmes au moment du grand départ, ou un Dieu qui assurerait le passage de l'autre côté comme Charon qui nous attendrait dans sa barque. Qu'est-ce que Jésus avait en tête en disant à ses disciples cette histoire de moutons et de bergers? Les faire passer d'un guide plus ou moins fiable à un autre, comme un GPS qui peut se tromper? Leur vendre une technologie soi-disant infaillible pour en remplacer une autre? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Tout compte fait, Jésus emprunte un autre chemin, tout d'abord en revendiquant haut et fort la vie des moutons de son troupeau. C'est ça qui change beaucoup. Ce que ne faisaient pas, apparemment, c'est ce qu'affirme le texte, les bergers salariés. Ils n'allaient pas jusqu'à se porter garant de la vie du moindre mouton, et certainement pas en risquant la leur. Il faisait comme il pouvait. Jusqu'à un certain point, la perte d'une ou plusieurs bêtes était compensée par une retenue sur salaire plus ou moins importante, et ça allait bien comme ça. Pas le genre à risquer sa vie pour quelques moutons. Le Jésus de l'évangile de Jean parle évidemment de sa propre capacité à donner sa vie un jour ou l'autre pour l'ensemble du troupeau humain, et ce sera chose faite assez rapidement. Et d'une manière assez étonnante d'ailleurs, sauver les moutons en prenant la place de l'agneau du sacrifice. C'est comme ça. Mais nous savons bien que lorsque Jésus tient ses propos, il parle de la relation qu'il a avec Dieu et aussi avec nous. Ces deux facettes de sa vie en relation avec Dieu et au milieu de nous fait place, justement, à un Dieu qui tente de forcer le destin en proposant des choix. Troquer un chemin tout tracé contre la liberté de choisir sa route. C'est ce que fait Jésus dans l'ensemble de son ministère, pas simplement à cet endroit-là, et au risque de contrer les attentes de tout un peuple qui souhaite un certain type de roi, un type de règne bien précis, une gouvernance qui solutionne les problèmes considérables d'un pays occupé et bientôt rayé de la carte. Pourtant, Jésus proposera la seule chose qui ne soit pas attendue, la seule chose qui aura pourtant de l'avenir. Puisque les disciples ne croiront pas longtemps que la mort du porteur de la parole tue aussi la parole elle-même. Contre toute attente, après le tombeau vide, ça parle toujours. Les cycles de vie et de mort existent bel et bien dans la nature, c'est entendu, et tôt ou tard nous y sommes nous-mêmes soumis, c'est vrai. Mais Jésus annonce ici une exception à ce mécanisme. Donner sa vie pour la recevoir à nouveau, ce n'est pas mourir. Et c'est possible. Faire en sorte que nos vies fragiles et limitées soient pourtant fécondes et donnent à espérer, c'est possible. Ce n'est pas mourir. Ne plus vivre avec la mort comme seul horizon, comme si elle avait déjà tout emporté, c'est possible. Et ce n'est pas mourir. Les fanatismes et l'aveuglement qui ont tué Jésus, pour cause de blasphème, alors qu'il nous annonçait le seul Dieu possible, sont toujours là, hélas. Mais notre espérance en une vie qu'on peut rehausser tant qu'elle est là, une vie rendue aussi divine que possible, si vous préférez, cette espérance, elle aussi, est toujours là. Rien sur la mort, dont nous ne savons rien ici, dans ce passage, rien du tout. Tout l'enjeu se trouve, en quelque sorte, rapatrié, ramené dans un même projet. Faire en sorte qu'il y ait de la vie en abondance tant qu'elle est là. Et là, eh bien, c'est une bonne nouvelle, nous n'avons que l'embarras du choix. Amen.